Donc bonjour, donc déjà merci d'être venu pour ce petit tour d'horizon sur les outils de gestion de configuration. Donc avec David, on va vous présenter un petit peu tout ça. On va faire un focus sur trois outils que sont Puppet, Salt et Ansible. On va les aborder dans cet ordre-là en plus. Bon, vous allez voir, on va parler un petit peu chacun des outils sur lesquels on a une forte expertise, et puis on va se partager après on partagera un petit peu l'espace de parole avec vous pour vos questions-réponses, et vous nous poserez des questions indifféremment à tous les deux. Juste avant de commencer, je vous rappelle que demain il y a un atelier sur Salt justement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, parce qu'il faut vous inscrire pour venir demain. Il y a déjà pas mal d'inscrits déjà, mais ce serait mieux que vous inscriviez encore dessus. Donc je m'appelle Christophe Sautier, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Objectif Libre, où on monte des infrastructures Linux innovantes, je vous parlerai un petit peu de ça après. J'ai une forte, implication dans la communauté du logiciel libre depuis très longtemps. J'ai été président d'Ubuntu FR pendant 6 ans, je suis développeur Ubuntu officiel depuis 8, je suis développeur OpenStack, je suis membre du CA de l'association OpenStack FR, je suis secrétaire adjoint de l'asso aussi, et puis je suis un défenseur de Capital du Libre. Objectif Libre, je vous disais, on est une SS2L toulousaine spécialisée dans l'infrastructure Linux, dans laquelle on va faire beaucoup de mise en place, d'audit, de gestion et de formation sur certains technos qui sont assez innovants. Donc bien sûr du OpenStack, qui est le mot à la mode aujourd'hui, de la gestion de parc avec du Puppet, du Ansible, de la virtualisation, KVM, LXC, Docker, et puis un petit peu de supervision Shinkle, mais c'est beaucoup plus marginal. Tous ces outils en fait sont souvent drivés sur notre activité autour d'OpenStack, qui nous permettent d'avoir une forte qui nous oblige à avoir une expertise sur toutes ces thématiques. On insiste très très fortement sur la contribution. Pour vous donner un ordre d'idée, on est dans le top 20 Objectif Libre des contributeurs au niveau mondial de OpenStack. On a plusieurs développeurs Ubuntu officiels dans l'équipe. Bon, et on contribue sur pas mal de projets open source. Alors, avant de vous parler de gestion de conf, ouais, comme on a des slides séparés, on va juste switcher rapidement. Donc,
rapidement, moi je suis David Douard, je travaille pour le GLAB. Depuis un certain nombre d'années, je suis utilisateur développeur libre depuis très longtemps. J'utilise Python depuis très longtemps puisque j'ai commencé au millénaire précédent. Et à Logilab, je m'occupe de l'infrastructure, des outils et du système. Deux mots. Et donc à Logilab, rapidement, ce qu'on fait, c'est on est aussi, pour faire simple, une SS2L. On écrit beaucoup de logiciels libres, on n'utilise que du logiciel libre. On a fait des choix aussi assez clivants depuis le départ sur les outils qu'on voulait utiliser, auxquels on voulait contribuer ou développer. C'est du Linux quand il s'agit de faire du système, c'est du Python quand il s'agit d'écrire du code. Il nous arrive de faire un peu du Fortran ou du C++ quand vraiment il y a besoin de faire des choses comme ça pour nos clients, mais on le fait pas assez peu d'habitude. La vie est trop courte, tout ça. Et quand il s'agit maintenant, depuis quelques temps, quand il s'agit de gérer des infrastructures, ce qui nous arrive de faire de plus en plus, on s'est intéressé et on a adopté Salt, après avoir un peu essayé les autres, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Je te rends la micro. Ça marche.
Hop là. Quand on va parler de gestion de configuration, on va déjà commencer par parler de ce qu'on avait avant la gestion de configuration. Donc avant la gestion de configuration, on avait des bonnes pratiques. Est-ce qu'on ne voit pas bien ? Bon, très bien. Donc avant la gestion de configuration, on avait des bonnes pratiques. Alors il y a toujours des cahiers de déploiement, des méthodes qui étaient unifiées, en sachant que tout ça était des outils ou en tout cas des éléments qui étaient hétérogènes à tous les niveaux, que ce soit au niveau du système d'exploitation, de l'organisation du système de fichiers, c'est-à-dire que je suis dans un cas, je vais le mettre à tel endroit, je vais avoir un cahier d'installation quand je veux installer dans SRV ou un autre quand je veux installer dans /var/3w par exemple. Et à chaque fois, quand je vais vouloir analyser ou vérifier que tout s'est bien passé, mes outils pour la supervision donc de mes déploiements vont être complètement hétérogènes. Donc on avait quand même des outils pour nous aider à déployer un petit peu nos différentes configurations. Alors soit on faisait tout à la main, set et hoc, c'était génial. On avait des scripts qui étaient assez illisibles au fur et à mesure, mais ça marchait assez bien. On avait une automatisation manuelle. Bon, c'était une connaissance maison, et encore, quand les gens ne partaient pas. qui était adapté à un cas précis, et encore quand les gens le faisaient proprement, quand il n'y avait pas trop d'effet de bord. Sinon, on avait, oui, effectivement, des outils orientés web. Alors bon, que ce soit du Plesk, du Webmin, d'abord, c'est des choses qui sont limitées en capacité. Ensuite, c'est le mal absolu. Et enfin, on a des gros effets de bord. Donc, quelque part, le choix est vite vu par rapport à ça. Pour ce qui est installation pure du système, on peut trouver, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est extrêmement utile, des outils vraiment spécifiques à l'installation, que ce soit du FAI, que ce soit du Kickstart, du Preside. C'est très bien pour l'installation, il n'y a rien à dire là-dessus. Même au contraire, il faut se servir de ça. Par contre, dès qu'on veut commencer à faire vivre sa machine, dès qu'on commence à parler de configuration dans le temps, c'est pas son but, donc ça marche pas. Et enfin, on pourrait parler de Cluster SSH. Pour ceux qui connaissent Cluster SSH, un outil qui est assez fabuleux. Vous lancez, je vois qu'il y a des gens qui sourient, vous lancez une commande Cluster SSH que vous avez entre guillemets configurée pour dire ben, j'ai un pool de 10 machines par rapport à ça, et ça va vous ouvrir 10 fenêtres plus une, qui sera une fenêtre qui vous permettra de taper n'importe quelle commande, et que cette commande sera appliquée dans les 10 autres fenêtres. C'est très bien. Le problème, c'est quand vous avez 200 machines à gérer, ou plus. Imaginez, ça veut dire qu'il faut le. Parce que honnêtement, ça ne se cale pas trop très très bien, ce qu'est le cluster SSH. Donc au-delà de 10 machines, ça commence à être fastidieux. Donc quand vous avez 200, il faut le faire 20 fois. C'est pas très très amusant, et puis un administrateur est feignant, par expérience. Donc on s'est dit, il faut un petit peu changer tout ça. Et il y a plein de cas dans lesquels c'est intéressant la gestion de configuration. Quand vous avez un nombre de serveurs ou de machines virtuelles à gérer, puisque dans tous les cas, ça sera à peu près identique, qui est non négligeable. Quand vous avez besoin de remplacer un serveur rapidement, vous vous dites aujourd'hui j'ai besoin de. Aujourd'hui mes données sont sauvegardées, par contre la manière pour recréer mon environnement ne le sera pas. Donc quand je veux refaire quelque chose à ISO fonctionnalité, j'ai besoin de le faire rapidement parce qu'on est souvent dans l'urgence par rapport à ça. Quand vous voulez aussi déployer vos changements sur une partie de vos machines ou sur toute votre infrastructure, et tout ça sans dupliquer votre effort. Et enfin, quand vous voulez avoir une manière homogène pour déployer vos applications, déployer votre configuration, gérer votre parc, alors que tout votre environnement, au contraire, lui, est hétérogène. Donc par rapport à ça, il y a plusieurs outils. Donc on va en aborder trois ici. On va commencer par parler de Puppet. Aujourd'hui, Puppet, c'est quand même l'outil le plus répandu de gestion de configuration. C'est aussi le plus ancien. La première version de Puppet date de 2005. C'est quand même Puppet qui est largement qui est le plus répandu. Après, le plus ancien, on va dire, dans les outils un petit peu à la mode, on va dire. Le plus ancien aujourd'hui, parce qu'il parlait de CF Engine qui était effectivement plus ancien par rapport à ça. Puppet, on a un langage déclaratif qui nous permet d'exprimer notre configuration. On a un modèle qui est principalement du client-serveur. Et c'est quelque chose qui est en GPL, qui est écrit en Ruby. Le fait que ce soit écrit en Ruby est assez important ici, puisque ça va être un frein pour beaucoup de gens pour l'adopter. C'est quelque chose qui est capable de piloter aussi bien des systèmes Linux, qu'Unix, que Windows. Donc par rapport à ça, on est vraiment dans le pilotage d'un système hétérogène. Côté client, comment ça se passe? Côté client, déjà, il faut installer quelque chose sur Puppet. Donc on va avoir un agent qu'on est obligé d'installer, qui tourne de manière générale sous une forme de démon, dont le but est assez simple. Il va contacter le master, qui est donc la partie serveur, via une API REST, qui est chiffrée, et qui est authentifiée. Et cette vérification va se faire de manière régulière. Par défaut, c'est une demi-heure. Mais on le fait vraiment comme on veut. J'ai un client auquel je pense, chez qui, je peux pas en parler là-dessus, mais chez qui c'est toutes les 12 heures. Parce qu'ils nous disent, moi j'ai pas de soucis, je peux déployer mes configurations toutes les 12 heures, ça me gêne pas du tout. Bon, après, ils avaient d'autres problématiques, ils ne savaient pas très très bien gérer le côté multi-master, et vu qu'ils avaient 2000 machines à gérer, ils avaient des problématiques de charge sur le master sinon. Donc le côté client va contacter le master en lui disant bonjour. On dit bonjour puisqu'il y a l'authentification qui est chiffrée authentifiée, donc il y a vraiment un échange par rapport à ça. Donne-moi ma configuration. Et lorsque le master reçoit ça, déjà il est sûr que la machine qui lui parle en face c'est la bonne. Donc il va regarder chez lui quelle est la configuration qu'il doit appliquer de manière générale pour cette machine. Et en plus il va prendre des éléments qui ont été propres à la configuration de la machine pour lui appliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait quand le client, quand l'agent va envoyer des informations, il va aussi faire une sorte d'introspection chez lui, grâce à un outil qui s'appelle Factor, pour voir un petit peu plein de faits sur sa configuration. Alors ça pourrait être l'OS qui tourne, la version du noyau, le nom de la machine, les interfaces réseau. Bon, de facto, il y en a plein. Sur des versions à peu près courantes aujourd'hui de Puppet, on va se retrouver avec 70 facts qui vont être remontés et qui vont être donc autant d'informations à partir desquelles le master pourra faire une configuration spécifique à cette machine. Donc le master va prendre ces éléments spécifiques, la configuration générique qu'il doit appliquer, il mélange tout ça, et il compile tout ça, et il renvoie tout ça vers le client final. et le client bah, qui est installé sur, donc, sur, le, sur la node va appliquer les changements qui sont mis là-dessus. Pour configurer Puppet, on est obligé d'écrire notre configuration dans un langage qui est déclaratif et qui nous permet donc de faire la configuration et l'abstraction des ressources. Une ressource, quand on parle de ressources dans le monde Puppet, c'est en fait l'état du système que l'on veut. Ça peut être la présence d'un utilisateur, ça peut être la présence d'un paquet, présence ou absence, bien sûr, dans les deux cas ça marche aussi. L'état d'un service, dire qu'il est lancé, arrêté. Le contenu d'un fichier, je veux dire je peux avoir cette ligne-là, ou alors je veux avoir carrément ce fichier dans sa globalité là-dessus. Sur les fichiers, justement, on peut travailler de plusieurs manières avec Puppet. Soit vous passez un fichier tel quel, vous dites, ben, mon fichier, je veux reproduire exactement ce fichier-là, quel que soit cet ensemble de machines. Par exemple, vous voulez passer votre fichier qui gère vos DNS de la même manière sur un bout de parc de manière homogène. Ou alors, vous allez pouvoir faire des templates qui vont permettre de construire, à partir des informations génériques ou à partir de variables que vous aurez pu définir, des fichiers adaptés pour chacune de vos machines différentes. Dans Puppet, on a une hiérarchisation des ressources qui sont appliquées. Soit on va appliquer des ressources juste sur une node, soit sinon on va appliquer ces ressources sur une classe qui va être un petit peu une sorte de rôle, soit sinon sur un module. Un module, c'est une collection qui est portable de classes. Une classe, par définition, c'est quelque chose qui est vraiment propre à une machine, qui est écrit pour un Puppet Master, qui ne va pas trop être portable d'une machine à une autre, parce qu'on se retrouve avec souvent des fichiers qui peuvent être écrits en dur, des relations qui vont être un petit peu des chemins relatifs, des éléments de ce type-là. Alors qu'un module, lui, va être vraiment une arborescence, je dirais, standardisée, dans lequel on va se retrouver avec beaucoup d'éléments qui vont être faits de manière à être portables. Donc c'est grâce à la présence de modules que l'on retrouve dans Puppet qu'a été construit une forge qui est gérée par Puppet Labs, qui est la société derrière le produit Puppet, puisqu'il y a une société aussi derrière Puppet, et sur laquelle vous trouvez des milliers de modules prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser. Alors, l'utilisation d'un module déjà tout fait, c'est très bien. Vous dites que ça fait gagner beaucoup de temps. J'ai un retour, je dirais, une expérience qui est un petit peu, je dirais, mitigée par rapport à ça. C'est que les modules, c'est très bien, sauf que les modules génériques qu'on trouve, sauf que pour comprendre comment ils sont faits, pour savoir comment on les utilise, et pour voir quels sont tous les cas qui sont traités, ben souvent, vous avez plus vite fait de refaire votre propre module. Donc, il faut savoir arriver bien à estimer un petit peu ce qu'on veut. C'est pas très, je dirais, open source, on va dire, dans ce sens-là, le fait de dire je réinvente la roue systématiquement, mais dans les faits, c'est un petit peu ce qu'on se retrouve à faire. On parlait tout à l'heure d'OpenStack, on a parlé plusieurs fois d'OpenStack. Aujourd'hui, si vous regardez la complexité des modules Puppet pour déployer d'OpenStack, c'est juste quelque chose de faramineux. Pourtant, on connaît très très bien OpenStack, on connaît très très bien Puppet, mais ce sont des modules qui sont extrêmement génériques et qui en même temps ne traite pas tous les cas. Donc vous êtes, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps où si on avait dû utiliser des modules Puppet pour déployer OpenStack, on aurait dû vraiment s'embêter dans l'utilisation, mais en plus faire vivre notre propre version parce qu'il y a des cas qui nous intéressaient qui n'étaient pas traités. Donc bon, des fois il vaut mieux repartir sur ses propres bases à soi. Un des éléments qui est vraiment extrêmement important en Puppet, c'est les relations que l'on trouve dans l'outil. Les ressources vous permettent donc des relations à ce niveau-là. Il y a une relation qui est assez simple, c'est une relation require et before. C'est ce qu'on trouve au niveau des dépendances, au niveau de différents paquets sur les descriptions Linux. C'est la dépendance. De dire, je suis une ressource, si jamais dans ma configuration je mets un require sur une autre ressource, mais dans ce cas-là, je sais que j'ai besoin que l'autre ressource soit déjà mise en place avant que moi, entre guillemets, on s'occupe de mon cas. Le before, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut que moi je passe avant l'autre ressource. Ce qui est encore plus, donc c'est quand même pas mal comme ressource, mais il y en a une qui est encore plus intéressante, c'est le notify et subscribe, qui elle nous permet de dire si jamais j'ai un changement chez moi, si jamais je fais un notify vers une autre ressource, alors tout changement chez moi impactera que je prévienne l'autre ressource qu'on voit un changement chez moi. C'est intéressant dans un cas extrêmement courant sur Puppet, c'est la gestion des services. Moi je suis une ressource fichier, allez au hasard, fichier de configuration d'un service. Allez, en prenant Apache. Mais je vais mettre un notify vers une ressource service qui sera allée au hasard, le service Apache. Donc à chaque fois que moi, un fichier de configuration, je change, je préviens le service Apache que j'ai changé et son action par défaut, c'est de se relancer. Ce qui fait qu'automatiquement, Puppet, du moment que vous créez quelque chose comme ça, va relancer les services. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, j'ai fait un tour très rapide de Puppet. On va voir avec David pour parler un petit peu de ça. Et puis après, on parlera vos questions, vos réponses. On pourra essayer de voir des comparaisons, un petit peu des choses comme ça. leur Ansible entre temps, bien sûr. Non, non. On s'est pas dit qu'on allait faire meilleur ou pas meilleur, comme ça, c'était beaucoup plus éviter qu'il y en ait un qui parle pendant une demi-heure, l'autre qui parle pendant un quart d'heure, essayer de quelque chose d'un peu plus dynamique par rapport à ça.
Donc, pourquoi je suis là pour vous parler de Salt et de Salt en particulier? C'était donc mon parcours et maintenant je m'occupe en partie, entre autres, de gérer des machines et des services. Et pendant longtemps, j'ai fait ça effectivement à la main, enfin on va dire, pour faire simple, à coup de SSH et de CSSH. Heureusement, on n'a pas des dizaines de milliers de machines, donc on s'en sortait comme ça. Mais il était évident qu'il fallait passer à autre chose. Donc j'ai essayé d'abord Puppet, puisque c'était effectivement le plus répandu. Et j'ai pas tellement accroché sur Puppet, entre autres parce que, à cause du DSL, que le DSL lui-même, c'est un DSL, le Domain Specific Language, donc le langage spécifique dans lequel qui a été implémenté pour décrire les états de configuration qu'on veut déployer, et que c'est vraiment un DSL et que c'est pas, ça ne s'appuie pas sur le langage qui est derrière, Ruby par exemple. Contrairement à Chef, qui est un autre outil du même genre, qui a été développé par des anciens de Puppet Lab, qui n'étaient pas contents de la façon dont Puppet se développait, donc ils ont fait Chef. Chef avait aussi en Ruby, la différence principale, enfin une des deux principales différences, c'est qu'avec Chef, les recettes, on appelle ça des recipes, c'est du chef, l'outil c'est le knife, enfin bref, on est dans le domaine de la cuisine. Les recettes, elles sont écrites en Ruby en fait. On ne le voit pas forcément, on a l'impression d'écrire dans un DSL aussi, mais fondamentalement c'est du Ruby. Donc ça veut dire qu'on ne s'appuie pas sur un DSL implémenté à la main, on a un vrai langage derrière, et donc on a la puissance du langage disponible. Néanmoins, je n'ai pas non plus totalement accroché, par contre j'ai découvert Salt il y a maintenant un peu plus que 2 ans, puisque ces slides ne sont pas tout à fait récents. Et j'ai tout de suite accroché quand j'ai vu Salt, contrairement aux autres. Pourquoi, du coup, maintenant j'essaie de faire connaître Salt, et c'est pour ça que je suis ici devant vous. Et mon parcours, avant tout, je ne suis pas administrateur système, je suis développeur à la base. Je pense que c'est un lien avec le fait que Salt m'ait autant fait de l'œil dès le départ. Pourquoi on fait ce genre de choses? Parce que dans la vie de l'administrateur système ou des gens qui gèrent des infras, on s'appuie. Alors Windows, c'est un cas particulier, je ne vais pas trop en parler, je m'intéresse essentiellement au monde Linux, sur le fait d'avoir une distribution. Qu'est-ce que c'est qu'une distribution aujourd'hui? C'est un ensemble cohérent de logiciels. En général, on a un gestionnaire de paquets, enfin c'est préférable, qui s'assure de la cohérence des logiciels les uns avec les autres. Et gérer cette cohérence, c'est quelque chose de compliqué, de très compliqué. C'est pour ça que tout le monde essaie de réimplémenter son propre gestionnaire de paquets dans son coin, tous les langages, tous les trucs, mais bref. Il y a un installeur, ça c'est un peu anecdotique, effectivement la partie installation, on va le faire soit avec l'installeur du machin, soit avec du FAI ou avec des outils qui font du provisioning tout seul. Pour ce qui nous intéresse, c'est assez anecdotique, et puis des outils pour gérer le système lui-même, les utilisateurs, etc. Mais tout ça c'est à l'échelle d'une machine. Une distribution, ça fonctionne sur une machine. Le problème, c'est que les infrastructures aujourd'hui, ça n'est plus une machine. Dans les temps anciens, on avait effectivement une machine, la machine qu'il fallait surtout pas toucher parce qu'on avait peur de la casser, etc. C'est plus du tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des tas de machines physiques, virtuelles. Et toutes ces machines, elles doivent collaborer pour proposer des services. Un service est rendu disponible par un ensemble de machines, chacune implémentant un petit bout du service. Et tout ça, ça doit collaborer, ça doit être en cohérence. Donc on a ce problème de gestion de cohérence non plus sur une machine, mais à l'échelle d'une infrastructure, ou en tout cas d'un bout d'infrastructure. Ce que la distribution ne sait pas faire aujourd'hui. On n'a pas de distribution à l'échelle de l'infrastructure. Du coup, ces outils d'orchestration et de gestion centralisée sont une nécessité absolue dans les infrastructures un peu modernes. Qu'est-ce que je raconte de plus? Dans la vraie vie, on a des systèmes informatiques, donc c'est de plus en plus nombreux, de plus en plus complexe, il y en a de plus en plus. On n'a plus la situation simple, un serveur qui tourne sur une machine physique, on a des services qui tournent sur des machines, on ne sait pas forcément facilement identifier lesquelles tant qu'on n'a pas été interrogé le système lui-même. Quand on a de la documentation, on est content, mais en général elle est périmée. Et puis on a plein d'informations qui sont dupliquées dans l'infrastructure, puisqu'on a l'inventaire, on a le monitoring, on a la configuration et on a la documentation, qui sont 4 projections différentes du même système. Et en général, qui ne sont pas cohérentes. Donc si on en revient à Salt, c'est un framework d'exécution à distance. Salt n'est pas un outil de gestion de configuration, c'est un framework d'exécution à distance. qui offre des services de gestion de configuration centralisée. Pour la petite histoire, Thomas Hatch, qui est le développeur de Salt, il a d'abord écrit Salt comme vraiment un framework d'exécution à distance, en se disant, pour la partie configuration, il gérait à l'époque, il travaillait dans des laboratoires américains, il gérait des tas de machines. Pour la partie configuration, il s'était dit qu'il allait utiliser du Puppet ou du Chef, les déployer avec Salt, éventuellement, des choses comme ça. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, avec ce qu'il avait fait dans son framework d'exécution à distance, faire la gestion de configuration, c'était pas bien compliqué de le rajouter par-dessus. Alors c'est un peu un raccourci de dire ça, mais l'important c'est un framework d'exécution à distance qui est rapide, qui permet d'appliquer des commandes très facilement sur plein de machines, et donc d'assurer l'état d'un ensemble de plein de machines et la cohérence de ces machines les unes par rapport aux autres. On a aussi du provisioning pour du cloud, un gestionnaire de machines virtuelles, tout plein d'autres trucs. C'est complètement modulaire. L'exécution à distance, ça se passe normalement, c'est pas une obligation, mais normalement ça se passe, la situation classique, entre un master, qui est le service central, le gros single point of failure. Bon, on peut le répliquer un peu maintenant, mais et puis les minions, ce qu'ils appellent les minions, c'est les machines qu'on veut administrer, ou sur lesquelles on va envoyer des commandes. L'infrastructure de communication, elle utilise ZMQ, ZeroMQ, qui est une bibliothèque de sockets assez puissante, assez évoluée, qui a ses petits dark corners, mais qui marche quand même très bien, et en particulier pour implémenter le pattern publish-subscribe. Quand on veut faire de l'exécution à distance, on en a besoin. On envoie une commande qui est déployée à tout le monde, enfin tous ceux qui sont intéressés. On fait du publish en disant il faut exécuter cette commande, et les minions qui sont intéressés, éventuellement, ils vont renvoyer des informations. Et on a le request reply pour l'autre partie quand les minions ils veulent partir de l'autre côté. Toutes les communications seront chiffrées avec du AES. Et l'infrastructure de ce genre de choses, c'est on a des clés. Chaque minion, il va avoir une clé. Et quand il va démarrer, c'est un démon qui tourne sur chacune des machines, quand il va démarrer, il va parler au master pour lui dire « j'existe, je suis ça, et ma clé, c'est... » Il lui donne sa clé. Le master, il faut qu'il accepte la clé, donc ça, c'est un administrateur sur le master qui doit accepter la clé. Il y a des outils pour auto-accepter les clés, ce genre de choses, mais c'est pas une très bonne idée, normalement. Et une fois que la clé a été acceptée sur le serveur, eh bien, le minion peut poser des questions au master, et le master peut envoyer des commandes au minion. Contrairement à du Puppet, où le master, il a toute la configuration et il attend que les minions lui posent la question, là c'est dans l'autre sens. On n'a pas sur les minions un time toutes les 30 minutes où ils viennent demander au master quelle est la configuration que je dois appliquer. C'est sur le master, je dis j'ai une configuration à déployer, je veux la déployer sur telle machine, éventuellement toutes les machines, et c'est le master qui envoie la commande à tous les minions en disant il faut que tu mettes à jour ta configuration. Donc c'est du push, pas juste du pull. Si on veut faire du pull sur une base de timeout, on peut le faire soit avec du cron table, soit directement dans Salt. Il y a des outils de scheduler qui permettent de faire ça facilement. Donc avoir des crons à l'échelle de l'infrastructure, disons. Donc l'architecture générale d'une infra, c'est il y a un master qui est le grand chef. On a des minions qui vont poser la question au master quand il s'agit de demander la configuration. Et on a aussi des trucs qu'on appelle les syndics au milieu. Ce sont des minions qui sont master pour un sous-domaine, bon, une sous-partie de l'infrastructure. Je me dépêche un petit peu. L'exécution à distance, ça fonctionne depuis le master avec une commande qui s'appelle salt, qui prend trois arguments. Le targeting, très important, c'est à qui je veux parler. Le deuxième argument, c'est quelle est la commande que je veux exécuter. Et ensuite, il y a éventuellement, chaque commande peut avoir des options en plus. Le target, c'est à qui je veux parler, et on peut le faire de différentes manières. Soit on demande juste par le nom des minions. Donc le nom de chaque minion, il a un identifiant unique. Par défaut, c'est le nom de la machine, mais on peut le changer si on veut. On peut targeter en fonction du FQDN, de l'IP, en fonction des informations qui sont remontées par le système, les facts en Puppet qu'on appelle les grains dans Salt, donc les informations du système qui me sont remontées. Donc je peux demander à appliquer une même commande à tous les machines qui sont sous Debian 7, par exemple. peut demander à faire la mise à jour de bash de toutes les machines qui sont sous, par exemple. Je ne sais pas pourquoi on ferait ça, mais voilà, on peut. Donc les commandes, il y en a plein qui sont disponibles. En fait, chaque commande, en réalité, c'est un module Python qui s'est écrit sous forme d'un module Python. C'est très facile d'écrire ses propres commandes. Les déployer, c'est très facile aussi. Il suffit de les mettre au bon endroit et ils se dépouillent tout seuls sur le master et elles sont déployées toutes seules. Et puis, on a des arguments ensuite à passer. Donc, si je demande un autre exemple, quelle est la version de OpenSSL qui est installée sur toutes les machines qui sont sous Wheezy, je peux taper ce genre de commande. Donc le targeting ici, je dis que j'utilise le grain system, le G ça veut dire que je vais utiliser le grain system, c'est-à-dire que je demande au système, à chacune des machines, quel est son code name et celle pour laquelle c'est Wheezy. À ce moment-là, je veux exécuter la commande pkg.version qui me retourne la version du package installé, en l'occurrence de OpenSSL. Et là, il faut avoir l'œil affûté, mais il y en a un qui ne va pas. Heartbleed. En l'occurrence, c'est entre le ouch et le pas ouch, il y a Heartbleed. Quand on s'agit maintenant, donc là on a vu la partie commande à distance. C'est vraiment le cœur de Salt, cette partie-là, et c'est extrêmement puissant tout ce qu'on peut faire avec ça. La deuxième partie, qui est celle en fait qui nous intéresse le plus ici, c'est la gestion de configuration, enfin dans la thématique de cette après-midi, c'est la gestion de configuration. Dans la gestion de configuration avec Salt, on n'a pas de DSL. On n'a que des structures de données. Des structures de données, c'est des dictionnaires de listes constitués de chaînes de caractères, pour faire simple, ou de flottants. Comment on décrit ces structures de données ? Par défaut, c'est du YAML. Mais en fait, on peut utiliser à peu près ce qu'on veut. On peut écrire en YAML, on peut écrire en Python directement, on peut écrire dans d'autres langages. Pour peu qu'on ait rajouté, il y a un certain nombre de modules qui sont prévus pour ça, mais qu'un petit module qui dit, qui va convertir mon format de fichier à moi dans, en gros, dans les structures de données. Et les structures de données, ça va être soit du YAML ou du. Enfin, voilà. Donc par défaut, c'est du YAML. On a un moteur de template aussi, donc pour tout ça, on est très proche de ce qu'on peut trouver dans Puppet ou dans Chef ou dans les autres. Et la notion d'état, d'appliquer un état, est-ce qu'un utilisateur est présent, est-ce qu'une base de données est présente, est-ce qu'un paquet est installé, on appelle ça des states dans Salt. On a des modules de state qui permettent de définir des états dans lesquels on peut vouloir mettre une machine. Par exemple, le state pkg.installed va s'assurer qu'un paquet est installé. Il ne va pas forcément s'assurer que ce paquet est installé et à jour. Si on veut que ce soit la dernière version, c'est un autre state, c'est le pkg.latest qui va s'occuper de ça. En général, on n'en a pas forcément envie parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on demande la mise à jour de la machine, il va éventuellement mettre à jour des paquets. Et si on veut un système un peu stable, en général, on aime bien choisir quand on met à jour les différents logiciels. Le master, c'est aussi un serveur de fichiers. Donc, pour la configuration qui est envoyée depuis le master vers les mignons, enfin, quand on demande l'application d'une configuration sur un mignon, on est sur le master, on envoie une commande que je vais vous montrer juste après, qui envoie un publish pour ce mignon-là, pour lui dire il faut que tu mettes à jour ta configuration. Et après, ce qui se passe en fait, c'est que c'est une exécution particulière un module d'exécution particulier qui est exécuté, le state.istate par exemple, qui est exécuté par le mignon, et lui, il réinterroge le master pour lui demander s'il y a des modifications dans la configuration, s'il faut retélécharger des fichiers, etc. Donc il y a aussi la partie gestion de fichiers, très importante, serveur de fichiers sur le master. Un fichier de state, ça va ressembler à ça, en YAML, le format par défaut, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. À chaque fois, on a un identifiant, c'est ce qu'on veut. Par exemple, mais ça peut être le nom du fichier ici qu'on veut installer. Le nom file en dessous, c'est le nom du module de state qu'on veut appliquer. Et le premier argument qu'on passe en dessous, le manage, c'est le nom de la fonction dans ce state module que l'on veut appliquer. Et donc là, on est en train de dire que l'on veut que ce fichier etcapt.conf, il soit géré par Salt, et il soit géré par Salt en ayant été le téléchargé sur le master, à cette URL-là. Et en l'occurrence, on lui dit en plus que ce fichier, pour le générer, c'est en fait un truc qui est templété avec du Jinja. Et on a la possibilité aussi, comme avec Puppet, de définir qu'on a des states qui dépendent du fait qu'un autre state se soit bien exécuté. C'est le cas ici du require. Ici, on lui dit que pour installer l'entrepôt de paquets de Debian, le GLAB acceptance, il faut avoir installé le fichier apt.conf et la clé de signature des paquets Debian de Logilab. Parce qu'évidemment, on ne fait jamais un wget sur un truc comme ça pour faire confiance à un fournisseur de clés. On s'assure que c'est les bonnes clés qui sont... Pour organiser, savoir quelle configuration doit être appliquée à quelle machine par défaut, il y a un fichier qui s'appelle le top.sls. Donc le .sls, c'est les formats de fichiers, en fait c'est du YAML pour décrire notre configuration. Le fichier top.sls, c'est le fichier racine. Il organise, il dit pour chaque machine, pour chaque classe de machine, on a le targeting à chaque fois qu'on va pouvoir utiliser. On peut mettre étoile ou on peut mettre OS codename de .wizy comme targeting. Et à ce moment-là, il y a des recettes, des states qu'on va appliquer à toutes les machines WISI et à que à celle-ci. Et ensuite, ça va faire référence à toute une arborescence de fichiers qui sont en dessous, qui sont tous les fichiers de description des états qu'on veut appliquer. Le fichier top.sls, ça va ressembler à ça. Donc étoile, ça target tout le monde, les fichiers de configuration basique. Et les db étoiles, c'est toutes les machines qui vont s'appeler db.quelque chose. Normalement, c'est des bases de données. Alors là, on fait une séparation par le nom des machines, mais ce n'est pas une obligation, mais c'est une façon de faire, etc. Pour appliquer un state, en fait, c'est une commande particulière. On est sur le master, on target une machine et on applique une commande qui est appliquer les états. IState, c'est appliquer les états. Avec test égale true, on peut juste dire montre-moi ce que tu ferais si tu appliquais les états. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de bug et qu'on n'a pas fait des typos dans ces fichiers, etc. En général, avec test égale true, dans la vraie vie, ça ne se passe jamais complètement bien jusqu'au bout parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas savoir tant que les états n'ont pas été appliqués. Mais on voit le plus gros des erreurs quand même. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Pour le reste, on verra demain pour ceux que ça intéresse dans la vraie vie.
Comme vous avez pu voir, il y a quand même déjà pas mal de ressemblances, ou en tout cas de concepts qui sont proches entre du salt, du Puppet. On va voir que sur Ansible, il y a aussi des choses qui sont assez proches. Sur Chef, effectivement, il y aurait eu d'autres éléments qui sont quand même très très proches. Après, il y a des petites différences, voilà, d'un outil à un autre. Sur la partie Ansible, là-dessus, je vais essayer un petit peu de m'attacher justement sur... comme on a déjà un petit peu parlé et qu'on est un petit peu, je dirais, redondant sur certains points, je vais un petit peu essayer au contraire de voir ce qui peut le différencier un petit peu de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Donc déjà, c'est un projet qui est récent. Si on regarde un petit peu, Puppet et Chef sont apparus en même temps et Salt et Ansible sont apparus à peu près en même temps aussi. Donc on est vraiment sur deux classes d'outils. Puppet et Chef, c'est du Ruby. Salt et Ansible, les deux sont en Python. Donc c'est à la limite, je vais dire, presque deux générations en fait qui sont assez proches par rapport à tout ça. L'énorme différence au niveau de Ansible, c'est qu'il n'y a pas d'agent. C'est quelque chose qui vous n'avez rien besoin d'installer sur les machines que vous voulez piloter.
C'est la force et la faiblesse,
effectivement de Ansible par rapport à ça. C'est capable de piloter du Linux, de l'Unix et du Windows. Alors j'ai marqué bêta parce que c'est quand même pas hyper répandu aujourd'hui.
Pour ça, Salt aussi, voilà. Est capable de piloter du Windows aussi. Je parlais que de Linux, ça pilote aussi du Windows avec toutes les limitations qu'on peut imaginer.
Comment ça marche? Comme je disais, sur Ansible, contrairement à Puppet ou à Salt, on n'a pas de serveur central. C'est-à-dire que depuis n'importe quelle machine, vous pouvez faire en sorte de commander les autres machines via du Ansible. L'installation, c'est ultra simple. Alors là, au fond, vous ne voyez rien du tout, je vous le dis de suite. Vous le verrez sur les slides quand on les publiera. Mais c'est juste PIP install Ansible. C'est bon, vous faites ça sur une machine, vous pouvez le mettre dans un virtual lamp si vous voulez, et à partir de là, vous pouvez piloter vos autres machines via Ansible. Il n'y a aucune installation sur une machine à contrôler, même sur Windows. Sur Windows, il faut juste, entre guillemets, activer un service, et après, ce sera bon. Les descriptions, les différentes actions que l'on veut faire vont être assez proches d'un langage naturel. On verra ça tout à l'heure à la fin. La communication, contrairement à ce qui se passe sur Chef, sur Puppet, sur Salt, on n'a pas de PKI, on fait tout à travers du SSH. Donc par le passé, on pouvait faire un petit peu du ZeroMQ aussi, mais on n'a donc pas besoin de clé, on n'a pas besoin de clé, je dirais, par rapport à la PKI, mais on peut mettre après des clés de SSH, bien évidemment, on peut jouer avec les passwords, on peut jouer avec du Kerberos, on peut faire tout ce qu'on veut. L'énorme avantage, vu qu'on n'est que sur du SSH, et c'est quelque chose qui est séduit de beaucoup de gens, en tout cas quand on passe à Ansible là-dessus, c'est que vous n'avez pas de modifications à faire sur vos infrastructures, sur vos switches, sur vos firewalls. Normalement, ils sont déjà prévus pour laisser passer du SSH, mais pas besoin de laisser passer le port 8040 comme sur Puppet.
Puis SSH, c'est bien plus sécur, c'est sûr.
On va pas rentrer sur des considérations comme ça. On a besoin, vu qu'on n'a pas de, on a besoin quand même de définir un petit peu les machines sur lesquelles vous voulez travailler. Donc on a une notion d'inventaire là-dessus. C'est un simple fichier texte. Donc c'est une décomposition à l'intérieur que l'on va faire. On va forcer cette décomposition. On se dit effectivement, je pourrais mettre toutes mes machines, mes 200 machines que je gère, ou mes plus de machines, je peux les mettre tous au même niveau. On va essayer de faire ça de manière un petit peu intelligente en les décomposant en fonction de différentes classes de machines. Par exemple, les serveurs web, soit par type de machine, soit par but dans la machine, soit par localisation. Bon, on peut faire plein de choses par rapport à ça. Là, j'ai mis un exemple de, justement de, d'inventaire. Le premier, je l'explique un petit peu pour ceux qui sont un petit peu loin, ou pour ceux qui sont devant aussi d'ailleurs. Le premier, vous avez juste le nom de votre... inventaire. Bon, alors j'ai mis des IP complètement, je dirais... fausse, mais c'était un exemple d'un inventaire réel qu'on avait chez nos clients. Donc j'ai mis un premier groupement de machines qui est un groupe de machines, et le second j'ai mis qu'une seule machine, mais au passage je passe une variable parce que je dis que le mot de passe pour nous connecter un SSH sur cette machine, ce sera ça, Ansible Rules. Je dis que l'utilisateur pour ce, avec lequel il faut qu'il se connecte, ce sera l'utilisateur root. Je définis ici aussi un autre troisième point, cette fois-ci je nommais des choses avec des IP, ici je mets un nom de un FQDN. J'ai rajouté aussi le mot de passe pour basculer sudo, parce qu'on peut utiliser du sudo par rapport à ça. On n'a pas besoin d'avoir de directement taper sur un utilisateur qui ait des droits particuliers, ou je peux très bien le remettre là-dessus. Et puis une fois que j'ai tous ces groupes de machines, je peux les regrouper pour les affecter ensemble, pour faire une action commune sur l'ensemble de ces machines. On a deux modes de fonctionnement sur Ansible. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mode ad hoc. Je vais faire une action maintenant. On a de très très nombreux modules qui existent par rapport à ça, de très nombreuses actions qui sont déjà préconçues. On peut en écrire aussi, c'est pas très compliqué. Là aussi, c'est du Python, ça se fait vraiment très simplement. Ou sinon, on a des playbooks qui sont aussi du YAML. Donc par rapport à ça, on va assez fortement se rapprocher de ce qu'on a pu voir sur Salt là-dessus. C'est un ensemble d'actions que l'on va pouvoir effectuer grâce à des modules existants. Ce qui est fondamental là-dessus, et je l'ai oublié juste sur ma slide, je le rajouterai sur les slides avant de le publier, c'est que vos actions elles vont s'exécuter dans un ordre précis, dans un ordre vraiment précis. Donc vous savez que la première action sera exécutée avant la seconde, qui elle-même sera avant la troisième, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas par exemple sur Puppet. Et ça, c'est un des gros reproches qu'on peut faire à Puppet, c'est que l'ordre n'est pas, vous n'avez pas vraiment un côté prédictif sur l'ordre de Puppet. Alors vous allez me dire, oui, tout à l'heure vous avez parlé de relations, on peut gérer les relations, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai quand vous avez, on va dire, quelques dizaines de ressources à gérer. Quand vous commencez à en avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers en soyons fous, là votre ordre là-dessus, c'est Puppet qui va le gérer, et donc vous êtes sûr qu'à un moment ça va casser. Tandis qu'en le faisant avec Ansible comme ça, vous n'avez pas ce problème-là, vous êtes certain que la première action se fera avant la seconde, et ainsi de suite.
C'est le truc très difficile quand on fait ce genre d'exercice, c'est gérer la causalité. Avec Puppet, on ne peut que exprimer la causalité. Avec Ansible, on n'exprime pas de causalité linéairement inscrite. Avec Salt, en fait, on a un mix des deux, c'est-à-dire qu'on peut exprimer de la causalité, mais si on a affecté un state avant un autre, on est sûr qu'il s'il n'y a pas de relation de causalité entre les deux, on est sûr que l'ordre de déclaration va être respecté.
Et vous avez aussi une gestion de notifications sur Ansible, comme on a pu le voir aussi bien sur Puppet que sur le Salt là-dessus. Les fichiers, pareil, comme sur Puppet, on les gère de deux manières, soit des fichiers tels quels, soit sinon avec des templates, aussi en Jinja comme sur Salt là-dessus. Je vous montre un cas concret. C'est amusant que tu aies parlé de ça tout à l'heure parce que tu disais mettre à jour Bash. Bash, c'était la faille de sécurité qui a été connue il n'y a pas très longtemps. C'était quelque chose qui s'appelait Shell Shock, qui a été connu sous le nom Shell Shock. Mais voilà un fixe que j'ai appliqué sur quelques clients à moi quand ça a été. Quand ça a été connu, j'étais dans un quand c'est sorti le problème, j'étais dans un aéroport et je me suis dit bon, mais il faut le corriger rapidement. Qu'est-ce que je fais? J'ai une connexion, je me branche sur mon VPN et voilà, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes dans lesquelles je dis j'applique ça à tous les autres. Alors bien sûr, on verra ça après. Je fais du sudo. La tâche que je veux effectuer, je dis c'est du apt-get-update. Ça, c'est juste le nom entre guillemets que j'ai donné. J'ai dit apt-get-update et mise à jour vache. Donc voilà, j'ai 6 lignes plus, dont une ligne de commentaire. Et après, je dis pour le module apt, je dis que je veux faire un update, je vais faire updater le cache, et pour bash, je vais mettre le dernier. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai lancé cette commande qui est là ici, Ansible playbook fix.yaml, que j'applique sur l'inventaire de tout à l'heure, et ça a déroulé sur les différentes machines sur lesquelles j'ai voulu les appliquer. Et ShellShock était corrigé chez nos clients. C'est sympa quand même. Enfin, je trouve en tout cas. Bon, j'ai mis mon mail, le mail de David, on va le, je vais l'afficher aussi.